Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. On est ravis de vous retrouver en ce dimanche matin. Théophile Omessar est à mes côtés comme chaque semaine. Comment ça va, Théo ?
Eh bien, écoute, moi je suis en pleine forme et je suis d'autant plus hypé cette semaine qu'on a notre premier invité en dehors de la team Rivers Basket Session. Voilà, c'est un des invités, honnêtement, un des premiers qu'on avait noté sur la liste qu'on avait lancé Hoop Culture en début d'année dernière. On s'était dit, voilà, les invités, je pense qu'ils pourraient être sympas, qu'on a envie d'avoir dans l'émission. Il était vraiment tout en haut de la liste et c'est pas pour le hypé ou pour le saucer plus que je dis tout ça. On est rejoint par Wax, qu'on est ravis de recevoir pour la première fois. Pour la petite histoire, en fait, Wax, on s'est rencontrés par le biais de la First Team. En fait, moi, c'est vrai que je te connaissais pas, pour être tout à fait honnête, avant qu'on se croise avec les copains de la First Team. Et puis en se croisant une fois, deux fois, le courant est bien passé et tu nous avais fait l'amitié d'être le rédacteur en chef de notre numéro spécial Kobe, parce qu'on avait fait une émission ensemble suite à sa disparition tragique. On avait parlé un petit peu et tu nous avais dit que t'étais partant pour nous accompagner sur ce numéro-là. Donc c'est la première fois qu'on avait pu collaborer et je continue avec mes petits compliments. Mais c'est vrai que pour chaque numéro de Rivers, il y a un rédacteur en chef exceptionnel. À chaque fois, on est ravis du temps que les gens nous accordent. Mais t'es vraiment parmi ceux qui nous ont accordé le plus de temps, qui a pris le plus à cœur ce rôle. Je me rappelle, on avait essayé d'avoir une interview avec Flea des Red Hot Chili Peppers et tout. Vraiment, tu t'étais démené, même si ça n'avait pas amené au bout. Ça avait été un vrai kiff de bosser avec toi sur ce numéro. Donc écoute, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Et ben moi pareil, évidemment c'est vrai qu'on ça commence à faire quelques années maintenant qu'on se connaît et comme je vous le dis souvent, je t'écris souvent pour te dire que vraiment tout ce que vous faites pour moi à chaque fois c'est parfait. Moi déjà j'étais un lecteur de Rivers de très longue date, je pense que j'ai près quasiment tous les numéros depuis le premier qui était sorti, donc j'étais vraiment archi content quand tu m'avais proposé cette collaboration et puis en plus après quand vous avez commencé à podcaster de plus en plus, moi c'est à partir du confinement je crois que j'ai commencé à vous écouter à fond sur les plateformes et je dis les plateformes parce que c'est marrant, le Hoop Culture par exemple je les ai tous écoutés et depuis le début, et je crois que ça fait depuis le début des CQFR que je les écoute tous les jours, qui m'accompagnent tous les jours, et donc je suis vraiment un fan ardu, mais par contre effectivement je les écoute sur les plateformes et rarement en vidéo, donc Pierre Armand, par exemple, je t'ai rarement vu, donc je suis trop content de te voir, parce que du coup, c'est vrai que moi, je suis plus plateforme que, j'avoue, YouTube, je stream un peu moins globalement dans ma vie, et donc c'est vrai que j'écoute vachement sur les plateformes, les trucs, et vous, c'est tous les jours, donc c'est tous les jours de la qualité, je sais pas comment vous faites, parce que des fois, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, notamment entre des demi-finales et des finales. Et à chaque fois, c'est pertinent et c'est intéressant. Et voilà, donc voilà.
Merci beaucoup, hein, tu nous fais rougir, on est écarlate, mais je te remercie encore, j'en profite pour te remercier pour les petits messages que tu nous envoies parfois, ça fait toujours vachement plaisir d'avoir ces encouragements, donc ouais, merci Wax.
Ah de rien.
Et puis surtout, on a fait un espèce de chou-fleur géant avec First Team qui nous taffe Théo de temps en temps. Nous, on leur frappe Wax, c'est bien fait. on les embrasse bien fort, surtout que tu fais partie. Peu de gens le savent aujourd'hui parce que tu as moins de temps à passer avec les gars, mais tu fais partie du tout début de l'aventure First Team. Toi-même, je crois qu'ils les avaient mis en son à un moment donné sur les génériques. Mais
c'est ça.
Tu fais partie de l'histoire.
En fait, le truc, c'est que moi, j'étais un énorme fan du Hoopcast. De toute façon, je suis fan de basket et des médias qui traitent du basket en France depuis que c'est possible d'avoir ces médiums-là sur Internet. Et donc, effectivement, on s'était rencontrés à l'époque du Hoopcast. Et à partir du moment où, avec Dailymotion, eux, ils voulaient aller un petit peu quitter l'alma mater pour voir un peu plus grand, changer un petit peu. On s'est fait notre première réunion avec Steph Brun, Thomas et Erwan dans la salle qui est juste derrière là. Et c'est à ce moment-là que Erwan a dit « On va s'appeler First Team, qu'est-ce que t'en penses ?» J'ai dit « Bah ouais, c'est super !» Et en fait, on a monté cette aventure à quatre au début. Après, je crois que Polo est arrivé très vite derrière. Et puis en fait, voilà, c'est... l'aventure First Team, bah en fait, on a monté carrément une boîte ensemble. Donc, moi, je suis hyper fier de voir cette First Team grandir tous les jours. Et ce que j'adore, à contrario de plein de milieux, c'est que, et c'est pour ça que j'adore le fait que Théo t'intervienne dans First Team, que plein d'autres interviennent à droite, à gauche, c'est qu'il n'y a pas, je trouve, ce truc de. Ouais, du coup, on est concurrent, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout ça, qu'au contraire, c'est à chaque fois un espèce de cercle vertueux où vous vous invitez les uns les autres, et je trouve que c'est merveilleux de voir ça en tant qu'auditeur, par exemple.
Bah c'est cool parce qu'on va forcément faire plein de parallèles entre la musique et le sport, mais c'est vrai que moi honnêtement je vois vraiment ça comme des featurings en fait, et t'as l'occasion de collaborer ensemble sur un truc et t'enlèves rien à la personne que t'invites, au contraire, ou tu t'enlèves rien quand tu vas intervenir chez d'autres. Voilà, honnêtement, tu sais, ce côté un peu compétition, moi je l'ai pas mal connu au début de ma carrière de journaliste dans la presse écrite il y a longtemps. Ça n'a jamais été mon état d'esprit de jalouser un petit peu ce qui se fait à côté. Et c'est vrai que avec les podcasts, je trouve que ça a vraiment quasiment disparu un petit peu de l'équation. Et donc, c'est super cool. Et c'est marrant que tu parles de Steve Brun, parce que Steve Brun, quand il était encore joueur pro, je le connaissais un petit peu, bah, forcément le côté basket. Et le moment où on a accroché, c'est aussi en parlant de son, parce que, comme tu le sais très bien, c'est un
Ah ouais,
passionné de
de
rap et
rap,
de.
ouais.
Absolument. Et donc, on avait bien accroché. Il avait même eu une rubrique à un moment où il faisait des chroniques de disques pour Basket Session. C'était
Mais
assez
oui, c'est
cool.
vrai. Mais
Ouais.
oui. Lui, il est. De toute façon, on a parlé musique pendant des heures avec Steph. C'est vraiment un féru de musique, et il est beaucoup plus connaisseur que ce qu'il veut bien le laisser penser. Et ouais, de toute façon. Mais l'équipe First Team en général aime beaucoup la musique.
Ouais. Ouais, c'est clair. Et là, l'occasion, donc bien sûr, on va parler de basket, mais c'est aussi, en fait, les planètes se sont alignées, parce qu'il se trouve aussi que tu viens de sortir ton nouvel album. On s'était dit, voilà, que c'était aussi l'occasion de parler tout ça. Nouvel album qui s'appelle Étincelle. Je sais pas si tu veux, peut-être le présenter un petit peu. Pourquoi cet
Ouais.
album? Pourquoi maintenant? Est-ce que tu as voulu faire avec ce projet? On peut peut-être commencer comme ça.
Alors,
Ouais,
juste je voulais dire
bien
un
sûr.
truc avant, tu parlais de compétition en parallèle avec la collaboration les collaborations qu'on peut faire. Le mot le premier mot, et je pense que c'est ce que tu vas nous dire Wax, la collaboration, toi, elle est au centre absolue de ton travail depuis des années, et elle est au centre complet et à l'origine, j'imagine, du projet Étincelle.
Ouais, et en fait, je pense qu'elle est au centre de ma vie globalement, parce que j'ai toujours eu deux passions qui étaient la musique et le basket. Et on gagne jamais tout seul au basket, ça on le sait. C'est vraiment la collaboration justement sur le terrain qui a rendu pour moi ce sport magnifique, même de façon thérapeutique. C'est-à-dire que on n'a jamais un échec seul. Alors il peut nous arriver, hein, évidemment, de faire une Nick Anderson et de évidemment rater le truc qui fait que bah ça fout tout le monde dedans. Mais en même temps, on peut revenir aussi sur des actions avant en disant mais toi aussi t'as raté ci, t'as raté ça, etc. Et donc on se relève tous ensemble. Et c'est ce que je trouvais magnifique dans la musique. Dès le premier groupe que j'ai intégré, c'était de pouvoir créer ensemble de la musique, faire ensemble des collaborations. Je suis quelqu'un qui est absolument pas solitaire et je m'en cache pas. J'adore faire de la musique avec les gens et partager avec eux des choses. Et en fait, j'avais fait une interview pour un magazine il y a 2 ans. Et la journaliste, à la fin de l'interview, m'avait dit c'est du off, mais en fait, on se demandait tu as fait plein d'albums, tu as fait plein de trucs, plein de réalisations, mais jamais tu as fait d'album de reprise. Or, on te connaît aussi au travers des reprises, via le comité des reprises sur Canal+ à l'époque, et puis après avec Fanzine, et puis sur RTL2 tous les dimanches, l'émission que je fais. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas d'album de reprise? Et je me suis dit, non, mais c'est vrai que je l'ai jamais fait. Et je m'étais dit, je veux pas juste faire un album de reprise, j'aimerais faire un truc qui soit un peu plus fédérateur que ça. Et donc je me suis dit, quel album moi j'aimerais écouter? Et je me suis dit que j'aimerais bien écouter un album dans lequel les artistes que je vais inviter vont pour la première fois interpréter la chanson qui leur a fait aimer la musique. Pas donner envie de faire de la musique, parce que ça serait excluant par rapport aux gens qui ne font pas de musique dans leur vie ou n'ont jamais touché un instrument de leur vie, mais faire aimer la musique. On a tous un morceau, je vous poserai la question à vous deux d'ailleurs, d'un morceau qui vous a fait aimer la musique. Et effectivement, bah, Pomme, par exemple, m'a dit, bah, c'est Dalida, Laissez-moi danser. M m'a dit, c'est J'ai 10 ans. De Souchon, quand j'étais petit, ce morceau, il me mettait des frissons et je peux pas t'expliquer pourquoi, mais ce morceau, il a été très important pour moi. Et je leur ai posé une deuxième question, c'est à quel endroit vous voudriez absolument qu'on l'enregistre? Je veux que ça soit votre endroit doudou. Et donc, Pomme, par exemple, m'a dit, dans ma chambre. J'aimerais que ça soit parce que c'est un endroit où je me sens le mieux, pas oppressé, etc. Donc, on a ramené tous les micros, etc. On a tout enregistré dans sa chambre. Mathieu, c'était entre deux dates. Il voulait que ça soit en tournée absolument parce que c'est là où il se sent le mieux. Donc, on a enregistré entre deux dates pendant sa tournée. Chaque artiste, voilà, avait sa petite histoire en rapport avec le morceau. Et en fait, ce que je voulais aussi, c'était que ça soit le plus spontané possible et qu'on ait vraiment le sentiment que, au niveau de l'interprétation, ils allaient tout donner, comme si c'était un peu leur Game 7, tu vois. Et donc, du coup, on a eu des interprétations. Enfin, moi, je trouve, parce que je suis fan des artistes que j'invite en plus, c'est des amis, mais plus que ça, tu vois, un peu comme vous, par exemple, on se côtoie, enfin, surtout Théo, parce qu'on ne s'est jamais rencontré, Pierre, mais et ça ne m'empêche pas de te demander comment ça va et comment ça va dans ta vie, et à côté de ça, d'être complètement fan de ce que tu fais et d'écouter tous les jours ce que tu fais. Et c'est un peu pareil avec les artistes que j'ai invités, ce sont des amis très très proches, je pars en vacances avec eux, mais j'ai aussi envie de garder ce cœur de fan, et j'ai réussi à, je pense, à garder ce mindset pendant tout le process de l'album. Et donc, du coup, c'est un album que moi-même j'écoute parce qu'en fait, je chante pas dessus et juste j'entends des gens que j'admire chanter des chansons avec plein d'amour, quoi.
C'est
Tu
marrant,
sais quand est-ce que
c'est
tu reçois
pardon, vas-y.
un artiste qui est au-dessus des autres, Théo? C'est quand le mec, tu lui poses une question et que t'as niqué l'interview derrière, tout entière. C'est-à-dire, il m'a flingué les 10 questions qui suivent. Et c'est ça.
Désolé.
Et y a, non, 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 il y a rarement. C'est pour te dire. Il y a peu d'artistes. Moi, j'ai eu le plaisir dans mon émission radio d'interviewer des gars comme Akhenaton, tu vois, où c'est pareil. C'est-à-dire que en fait, tu leur poses la première question, tu dis bonjour, il dit le reste, quoi. C'est-à-dire, tu leur poses la première question et là, tu déroules le truc. Et ce qui prouve que tout ton projet est cohérent dans le sens où tout est articulé. Excuse-moi, Théo, je te laisse la parole.
Non, mais ça c'est la vision de jeu, c'est le QI musique de
C'est
Wax
du
ou des
basket.
grands
Tu lui
comme
fais la
ça.
remise en jeu, tu lui fais la remise en jeu, il sait déjà qu'il va monter sur le alley-oop après un pick and roll, quoi.
Non, c'est ça, mais en fait je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le côté, tu sais, être fan et en même temps connaître bien les gens et rester fan. Et c'est vrai que moi j'ai eu le privilège en fait de le voir de mes yeux vus, parce qu'avec Wax on a eu la chance de faire une interview d'Oxmo Puccino, enfin c'est toi qui as fait l'interview d'ailleurs, Wax, qui était le rédacteur en chef de notre numéro spécial Jordan. Et ça en coulisses je l'ai vraiment vu, parce qu'en fait j'ai vu à la fois votre complicité de vous connaître de longue date, et en même temps quand c'était le début de l'interview, je t'en ai parlé, même après, de voir vraiment ta curiosité authentique, de voir les réponses d'Oxmo, d'avoir son j'ai senti tout, enfin j'ai ressenti tout ce dont tu parlais. Et c'est vrai que, enfin, je te l'avais dit après coup, moi j'avais été un peu j'avais été bluffé, parce que les interviews c'est toujours un exercice. Alors je sais que t'es rodé, hein, Wax, malgré tout, mais c'est un exercice particulier. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que t'étais bien dans le quand rebondir, quand changer de thématique, creuser un petit peu. Et puis surtout, ce qui m'avait plu, c'était voilà cette soif authentique de savoir vraiment, de découvrir des choses, d'en apprendre plus, même si avec Oxmo, je pense que vous connaissez depuis un bail maintenant, quoi.
Ouais, mais tu vois, par exemple, en fait, c'est ça où je te dis le mindset, c'est qu'au final, même si je suis, en fait, indirectement, effectivement, rodé à l'exercice de l'interview, moi, j'estime que je suis vraiment pas du tout un intervieweur. Je suis juste un mec passionné qui m'intéresse, en fait, à ce que racontent les gens. Et par exemple, je me suis dit, quand on a fait l'interview, mais c'est vrai qu'avec Oxmo, on n'a jamais, alors que son frère était en équipe de France, etc., on n'a jamais parlé basket, je sais pas ce qu'il pense de Jordan. Vraiment, tu vois. Et donc c'était moi le fan d'Oxmo qui posait les questions, même pas moi, son pote, tu vois.
Ce qui est étonnant dans ton projet Étincelle, mais également dans on va dire la version peut-être vidéo. Toi, tu disais que tu regardais pas beaucoup de formats vidéo, t'écoutais plus de l'audio. Moi, on est pareil, t'es aussi souvent. Quand on fait un duo comme ça où toi tu te mets au service de quelqu'un, mais t'es quand même Wax, c'est ton émission, c'est Fanzine, c'est émission sur RTL2, etc. Il y a quand même avec l'artiste qui est à côté qui fait la reprise, il y a quand même un rapport d'ego quand même, chacun est musicien, etc. Toi, ce que tu arrives à faire, et c'est très étonnant, c'est d'éteindre tous ces egos, et on sent du coup que le plaisir que tu prends, notamment quand on te voit faire, on te voit sur certaines vidéos, de faire cette reprise. Je parlerai d'une autre vidéo tout à l'heure qui, moi, m'avait retourné la tête dans un autre contexte, mais c'est toi le kiff que tu prends. C'est-à-dire que chaque phrase que l'artiste va sortir, là, en plus, c'est souvent des voix féminines et c'est et rien que pour ça, on t'en remercie. Mais de soudain, de lever la tête et de dire « Waouh, le kiff, quoi, celle-là, cette note-là, je ne l'avais pas vue sortir. » Et c'est... Alors, on va parler de tout à l'heure d'une, de ton équipe all-time qui est où il y avait des égos surdimensionné, mais qui pourtant à un moment donné savait s'éteindre pour faire corps. Justement, c'est cet esprit d'équipe pour toi, c'est essentiel. Alors, tu as travaillé dans des groupes, mais il y a quand même des égos. Comment on fait quand on est comme ça? Parce que c'est ton projet, c'est Wax qui est devant, et pourtant on te parle beaucoup de tes invités, quoi.
Ben, en fait, je pense que ce que moi j'ai remarqué, en tout cas en tant que moi l'artiste, à chaque fois qu'on m'a mis dans des dispositions où j'ai complètement oublié qui j'étais, c'était quand, un peu sur le principe de l'escape game, quand on me dit voilà, oublie où tu es, oublie qui tu es, et juste vis le moment présent, et voilà le scénario. Et le scénario, c'est souvent une reprise, un morceau que ni la personne que j'invite, ni moi-même n'avons vraiment joué. En fait, on connaît la chanson, mais on ne l'a jamais vraiment joué ensemble. Et à partir du moment où on sort chacun de notre zone de confort, le fait de se retrouver ensemble sur ce terrain complètement aride, on va dire, où c'est à nous de tout construire, et bah, du coup, on oublie un peu tout et on se retrouve à faire, à créer cet inédit ensemble. Et je pense que c'est ça un peu la magie qui s'opère un peu dans ces morceaux, enfin, sans prétention, mais je pense que vraiment c'est des jolis moments parce que c'est des moments très spontanés et pas si travaillés que ça. Je pense que si on travaillait pendant 2 semaines sur un truc, au bout d'un moment, peut-être qu'on commencerait à dire « bon, là, je rajouterais si… » Et là, on commencerait à rajouter un peu trop de nous, alors que de nous, chacun individuellement, alors que là, le fait de le faire très spontanément, le « nous » devient une seule personne et on fait cette création ensemble, quoi.
Alors, ça m'amène une question, parce qu'en fait, souvent une question que je me pose quand j'ai l'occasion de parler avec des artistes, c'est de savoir à quel moment ils savent qu'un morceau ou qu'un album est fini. Là, finalement, les collaborations que tu as faites, comme tu allais chez les gens, où ils se sentaient le mieux, il y avait un temps qui était quand même limité, j'imagine. Tu ne pouvais pas rester une semaine dans la chambre de pommes pour enregistrer et refaire faire des voix. Du coup, est-ce que tu as vécu ça comme une contrainte ou justement comme quelque chose qui te simplifiait la vie sur ce que tu t'essayais d'avoir en fait, lors de ces collaborations?
Ah oui, ça va simplifier la vie d'une certaine manière, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu définis un cadre très précis, en disant, alors, de un, je ne vais pas décider des chansons qui sont sur mon album, parce que c'est leur choix à eux. Donc, je ne sais pas de quoi mon album va être fait. De deux, je ne sais pas où je vais les enregistrer. Mais effectivement, comme tu dis, vu que c'est des endroits dans lesquels c'est leur territoire à eux, à chaque fois, je disais, t'inquiète pas, le but, c'est pas de rester longtemps. Et en fait, à la fin, ça durait archi longtemps parce que finalement, on mangeait ensemble. Des fois, on regardait même un film entre des prises. Et après, on disait, bon, allez, on se la refait. Et moi, ce que je voulais, c'était en avoir vraiment la prise de A à Z quasiment en une traite.
Okay.
J'essayais de pousser ce truc-là. Excusez-moi, j'étais un peu malade, donc je tousse de temps en temps. Et vraiment qu'on ait la meilleure interprétation possible. Je voulais vraiment les pousser parce que j'ai ce truc-là d'avoir réalisé pas mal de disques. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec chaque artiste avec lequel je travaille, c'est de pousser, 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 mais toujours avec beaucoup de bienveillance et toujours beaucoup de « non mais t'inquiète, on a le temps, sinon je peux revenir une autre fois, etc. » Mais le fait de passer des bons moments ensemble, d'être vraiment, tu sais, on oublie tout, on oublie le reste et on n'est plus que sur la chanson, ça donne souvent des moments assez magiques. Donc ça faisait partie de mon cadre aussi. Et surtout, tu disais, quand est-ce qu'un album, tu sais qu'il est terminé? Moi, je savais que dans le process, à la fin, j'allais ressortir avec 17 guitares-voix, parce qu'on jouait guitare-voix dans les chambres, en tournée partout. C'était que très, très simple, ce qui fait que ton cadre, il est encore plus délimité. Et à la fin, j'ai pris des musiciens extraordinaires que j'ai mis dans le plus beau studio de Paris qui s'appelle Ferber, où ils étaient, il y avait 8 musiciens, ils avaient tous dans les oreilles les guitares chants en question, et comme un chef d'orchestre que j'ai improvisé parce que je n'en suis pas un, je leur ai dit vraiment, je veux que vous jouiez les yeux fermés au maximum et vous imaginez qu'on est là dans la salle avec vous et vous interprétez vraiment les chansons comme si on était là. Donc si vous sentez qu'à un moment il y a un petit peu de on est un peu laid back, ou si à un moment vous sentez que on monte en pression, montez avec nous. On n'est pas dans la salle. Moi, je n'ai pas joué avec les musiciens physiquement pendant l'album. J'avais fait ça déjà, ce travail avec les artistes qui étaient invités. Et donc ça, c'était vraiment le moment le plus magique. J'imagine, si je devais faire un lien avec le sport, c'est un peu comme si tu dessines vraiment au maximum un schéma d'attaque, par exemple. On va prendre l'attaque en triangle. Et Tex Winter voit sous ses yeux des musiciens extraordinaires, des artistes comme Pippen, Kukoc, Jordan, faire le plan qu'il a toujours imaginé dans sa tête, qui était juste sur un bout de papier. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Et à partir du moment où ils ont joué les 17 chansons, j'étais là, OK, on a l'album. Il est fini.
Et du coup, ce duo guitare-voix, parce qu'il faut expliquer aux gens qui vont découvrir cet album, c'est pas un album de musique électrique, enfin, c'est pas un album de rock, proprement
Non.
parler, c'est toi qui es en manière d'acoustique, peut-être une manière de rendre hommage à ces fameuses séries Unplugged de l'époque qu'on aimait tant
Exact.
et qui nous manquent beaucoup. Mais finalement, alors, tu démarres et après, il y a le feu qui s'allume, donc l'étincelle, cette fameuse étincelle qui est le titre du titre du disque. C'est
Oui.
ça justement, c'est ce premier travail ou c'est l'étincelle dans la tête de tes... C'est le morceau qui est l'étincelle dans la vie de tes invités.
Dans la vie de mes invités, tu vois, moi par exemple, si j'avais dû être invité sur un album comme ça, j'aurais répondu Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Parce que je me rappelle que quand j'avais 9 ans, j'étais dans la voiture de mon cousin. Je n'écoutais que du rap. Et il m'a dit, je vais te faire écouter un truc, tu me diras ce que t'en penses. Il a mis Nevermind de Nirvana, qui commence par Smells Like Teen Spirit. On était dans une voiture sur l'autoroute. Et je me rappelle vraiment, j'ai regardé mes bras. J'avais jamais, jamais de ma vie avant eu la chair de poule. Et j'étais là, genre, oh, c'est incroyable. C'est entre violent, tendre, criant, mélodique. Enfin, je peux pas expliquer ce qui s'est passé. On l'a écouté 17 fois de suite. Et la deuxième chanson de l'album, c'est Comme As You Are. On l'a écouté 17 fois de suite. Et ça, sur tout l'album, il en avait marre, le pauvre. Mais il avait 10 ans de plus que moi. J'étais son petit cousin. Tu vois, il avait 19 ans. Il se disait, bon, le petit, il découvre. Et l'album était sorti pas très longtemps avant. Donc ça restait encore un peu frais. Et là, vraiment, ça a été l'étincelle. Je suis sorti de sa voiture après ce truc-là et je me suis dit, j'aime la musique. Vraiment, je veux écouter de la musique. La musique, je comprends maintenant ce que ça peut procurer aux gens. Et c'est ça que je voulais aller chercher chez tous mes invités. C'est ce morceau qui leur a fait exactement le même effet que moi j'ai eu avec Smells Like Teen Spirit. C'est ça l'étincelle, en fait.
Ah, donc c'est vraiment, c'était un moment, une révélation, c'était un tournant de ta vie, quoi.
Ah ouais, vraiment, vraiment. Pour le coup, en plus, c'était un moment où je n'écoutais que du rap et je faisais que du basket. Et là, d'un coup, ça a ouvert le champ de la musique qui était. Le rap était déjà large. Mais pas aussi large que maintenant, où le rap est pluriel à plein de niveaux. Mais ça a ouvert un champ énorme. Mes parents m'ont biberonné à la folk quand j'étais petit. C'est pour ça que je voulais justement qu'on fasse de l'acoustique aussi. C'est parce que je trouvais qu'il y avait un côté très nu dans le fait de jouer juste de la guitare acoustique avec du chant. On ne peut pas mentir, en fait, dans l'interprétation. Il n'y a pas plein d'effets. Il n'y a pas de. On ne peut pas sortir une 808 et commencer à faire. Parce que ça, on a fait un album qui s'appelle Lithium l'année dernière, où là, pour le coup, c'était compo avec plein de rappeurs. Et du coup, on a pu travailler dans une méthode très contemporaine, on va dire. Là, moi, je voulais vraiment faire un album comme si c'était un album des années 60, quoi.
Ben ça se ressent ouais, sur le son notamment. Et puis c'est vrai qu'après Lithium, j'étais surpris en écoutant Étincelle. Je m'attends, enfin, tu sais, j'avais pas forcément regardé d'interview ou lu quoi que ce soit avant. Donc je l'ai vraiment mis pour découvrir. C'est vrai que le contraste est hyper frappant. Et on retrouve en tout cas ce côté dont tu parles là, de simplicité, de mise à nu quelque part.
Ouais.
Et puis moi, ce qui m'a frappé, ouais, c'est je reviens dessus, c'est cette place laissée aux voix féminines. Moi, il y en a deux, bon, bah, que je connais un petit peu mieux, pour les rencontrer, écouter, interviewer, etc. C'est les jumelles d'IBI.
Ah ouais.
Ça, j'imagine que toi qui aimes travailler les voix, etc. Enfin, ça résonne encore dans ta tête. En plus, il y a un travail entre une pianiste de génie et une percussionniste émérite. Ça a dû être un bonheur pour toi, ça.
Bah oui, c'est incroyable parce que, alors déjà, on se connaît depuis longtemps parce qu'en fait, au moment où ils sortent leur premier album et qu'elles font River, Moi, à l'époque, j'avais une émission avec Thomas Ngijol sur Canal+, qui s'appelait Selon Thomas. Et je l'aidais un petit peu à choisir un peu les artistes. On discutait de tout et j'accompagnais tous les artistes qui étaient invités. Donc, on avait invité tous les copains, Orelsan, etc. Et moi, j'avais un peu poussé la candidature d'IBI parce que j'avais entendu juste une sorte d'EP. Et j'avais dit, il faut absolument les inviter. Elles étaient venues, donc c'était un peu leur tout début. Et puis, on s'est toujours suivis depuis. Et quand je leur ai proposé d'être sur l'album, parce que pour moi c'était logique, vu notre passif, elles m'ont dit d'accord. J'ai dit, vous l'enregistrez où? Elles ont fait, bah, dans le salon de notre maman, parce qu'on a commencé dans le salon de notre maman à chanter quand on était petite. J'ai dit, bah, génial. Donc on a ramené les micros et tout. Et en fait, elles ne voulaient pas chanter séparées. Moi, je leur ai dit, c'est génial. Si on peut avoir le truc le plus authentique, ça serait quoi pour vous? Elles ont dit, vous mettez un micro bidirectionnel. Elles se sont mises de chaque côté du micro. Elles l'ont chanté peut-être intégralement deux fois. On n'a fait aucune comp sur le truc, c'est-à-dire on n'a pas fait d'édit. C'est vraiment un passe-passe entre la sœur et l'autre. Et le moment où elles ont chanté, on avait les larmes aux yeux. C'était
Ah, c'est
tellement
quelque chose.
beau. Ah
Ouais,
ouais,
c'est
c'était
quelque
tellement
chose.
beau. Et
Cette
je.
synergie entre les deux est incroyable. Ouais.
C'est fou. Elles sont si douées. C'est incroyable.
Moi, j'aurais une petite question par rapport. On va revenir sur Étincelle, mais pour faire une petite aparté, tu parlais de Nick Anderson tout à l'heure et de la pression de mettre 4 lancers francs à quelques secondes de la fin d'un match. Qu'est-ce qui est plus dur, choper 2 lancers francs en fin de Game 7 en finale NBA ou se retrouver seul au milieu de Bercy avec une guitare électrique et faire la
La
Marseillaise?
question, ça.
Parce que est-ce que ça, c'est pas le shoot, ton grand shoot d'adrénaline
Avec
finalement?
Jordan, dans le public, quand même.
Ouais.
Jordan dans le public.
Bah, de manière complètement égocentrique, je dirais que le plus dur, je pense, c'est faire la Marseillaise. Parce que tu peux rater des lancers francs, mais t'as un game 5 derrière où tu peux te rattraper. Alors que tu rates ta Marseillaise, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai eu la chance de ne pas être complètement conscient de tout ce que ça comprenait, parce que, en fait, finalement, étant fan de basket depuis l'enfance et fan de musique depuis l'enfance, en plus, j'ai voulu faire une version un peu Hendrixienne, c'est-à-dire avec de la wah-wah, ma guitare électrique, tout ça à Bercy, c'est ma ville, Paris. Je suis né à Paris, élevé à Paris, c'est le sport de mes parents. Nous, on est une famille. Où mon père est immigré d'Istanbul, on est arménien d'origine. Et donc, la plupart de ma famille sont allés à Détroit et à Los Angeles. Donc, du coup, je savais que eux, sur ESPN, regardaient aussi. Je misais gros, en fait. Et je ne me rendais pas compte que si je me plantais, parce qu'il ne faut pas oublier que 6 mois avant ou à peine un an avant, Fergie se plantait un petit peu
On en
au
a parlé il n'y
All-Star
a pas
Game.
longtemps. Ouais. Un
Ben
petit
bah
peu,
oui,
ouais.
j'avais vu
Un
que vous
petit
en
peu.
aviez parlé. Elle se plante et derrière, moi, j'ai du coup, tu sais, moi, je suis très empathique de ça parce que je sais ce que c'est que de monter sur scène, je sais ce que c'est que de pouvoir éventuellement se planter sur un truc. Les gens sont cruels et des fois, on peut ne pas s'en relever. Et elle s'en est pas vraiment relevée derrière. Il y avait tellement de négativité que derrière, elle a préféré mettre la musique de côté. Et en fait, a posteriori, je me suis dit, heureusement que j'ai réussi mon pari, parce que si j'avais raté, je pense qu'aujourd'hui, je ne vous parlerai pas. Je pense, je sais même pas si j'aurais fait un autre album. Je pense que je sais pas ce que j'aurais fait, d'autres choses. Mais en fait, je suis tellement passionné par le basket, je suis tellement passionné par la musique. Le jour où je peux mélanger les deux, si je me plante comme ça, les gens, ils en auraient rien à foutre, moi, de mon histoire, de savoir que c'était important pour moi, tout ça. Ils auraient dit juste, tu t'es planté, t'es merdique, et puis c'est tout. Et je pense vraiment que ça m'aurait vraiment détruit, quoi.
Moi, j'ai juste deux petites questions qui en font peut-être qu'une. La première, combien de temps on te l'a dit à l'avance que ça allait être toi qui allais faire cette Marseillaise? Et la deuxième, c'est est-ce que quand tu la réécoutes aujourd'hui, c'était exact, parce que j'imagine que tu l'as répété avant, est-ce que tu l'as sortie exactement comme tu l'avais répété ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, Yalla, tu sais quoi, c'est chez moi, c'est mon sport, vas-y, vas-y, je me fais plaisir et je pars et je l'emmène où je veux.
Alors, je vais être super honnête avec toi. Vous connaissez Nico Bermond, peut-être, en
Ouais.
tout cas, toi, Théo, tu le connais, et qui travaille pour la NBA, avec qui j'avais eu l'occasion, qui m'a fait rencontrer, notamment avec la First Team Isiah Thomas. Donc, on se connaît depuis quelques années maintenant. un jour, il m'envoie une vidéo sur WhatsApp. Je pense qu'on est en novembre 2019. Une vidéo de Slash qui joue l'hymne américain au Super Bowl. Et je lui dis, merci beaucoup, Nico. Mais je la connais, cette vidéo. Il fait, et t'en penses quoi? Je lui dis, bah, moi, je l'adore, mais de toute façon, moi, Slash, pour moi, c'est Dieu. Donc, à partir de là, voilà. Il me fait, est-ce que ça te dirait, pour le premier match NBA en France, de faire la Marseillaise? Et je lui dis, oh là là, attends, qu'est-ce que tu me racontes, là? Est-ce que c'est vraiment une question ou... Il me fait, non, non, mais... Je lui dis, non, mais là, parlons sérieux 2 secondes. Est-ce que c'est une vraie question ou est-ce que tu me dis ça comme ça? Il me fait, non, non, c'est une vraie question. Voilà. Et j'ai dit, bah, oui, évidemment. Il fait, bah, alors tu l'as fait. Et on est en novembre, et je sais que le match a lieu en
En
janvier,
janvier.
fin janvier. Et je lui dis, mais waouh, 3 mois en avance, je lui dis, mais pourquoi... Enfin, super, génial, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, bah, ce que j'aimerais, c'est que tu la travailles comme tu la veux. Les Américains sont très dans les procédures, donc il faut que tu envoies une vidéo où tu l'as fait pour que nous, on puisse la valider. Le lendemain, en pyjama, je passe 2 heures à la prendre, à machin, etc. Je fais un truc avec des petites envolées à droite, à gauche, je change un peu le tempo. Je lui envoie, il me dit, écoute, si tu peux enlever les 5-6 premières secondes, où, tu sais, parce que je veux être du Larsen et tout, un peu à la Hendrix, il fait, si tu peux enlever ça, les Américains sont OK pour tout. J'ai dit, OK, d'accord, je t'enlèverai le petit début, il n'y a pas de souci. Et à partir de là, je dis, et donc maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Il fait, bah non, bah rendez-vous à Bercy, quoi, enfin à l'Accor Hotel Arena. J'ai dit, waouh, OK, d'accord. Et donc, j'en parle à personne, à part à ma femme. Et évidemment, à Cicole, avec qui je fais tout dans Fanzine, etc., parce que lui, je voulais qu'il soit là, parce que on fait tout ensemble. Et au fur et à mesure, je vois des gens, parce que tout le monde sait dans mon entourage que j'adore le basket, me dit, alors, tu seras au match NBA? Je fais, oui. Oh, c'est dingue et tout. Parce que j'ai vu, il y avait des anciens joueurs qui allaient venir. Il y a Karim Abdul-Jabbar, non? Et tout. Je fais, ah bon? C'est genre, en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment essayé de pas du tout savoir ce qui allait se passer. Je voulais aucune nouvelle. Et je crois, l'avant-veille du jour de la Marseillaise, il y a mon frère qui m'appelle pour me dire, alors, au fait, tu vas au match, tu as pu m'avoir des places, parce que je lui avais dit que je pouvais peut-être lui avoir une place, je lui ai eu une place. Et je lui dis, ouais, carrément, il fait, putain, ça se trouve, on va croiser Jordan, parce que tu sais que c'est les Hornets qui jouent. Et je lui fais, putain, je m'en étais pas rendu compte, ouais.
T'avais pas percuté.
Non, mais et en même temps, il y avait une news, je sais pas si vous vous en rappelez à l'époque, en 2019, il y avait eu. La Ligue chinoise qui avait voulu l'inviter pour un... Alors, je ne sais pas si c'était leur All-Star Game ou quoi. Et il lui avait proposé, je crois, de mémoire, 100 millions de dollars pour qu'il vienne juste assister au match. Et il avait refusé.
Rien,
Derrière...
c'est le mois de mai pour lui, 100 millions.
Et derrière, ils avaient matché, je ne sais plus la somme, mais c'était délirant, genre 200 ou 300 millions de dollars. Et il a re-refusé encore. Et donc, je m'étais dit, s'il refuse 300 millions de dollars pour aller voir un match là-bas... Il ne va pas venir gratos à
Ouais.
Paris. Enfin, de toute façon, la NBA en France, en Europe, ne permettra jamais de sortir autant d'argent pour lui.
Surtout
Mais
qu'il y
par.
avait eu, excuse-moi, il y avait eu la mauvaise expérience, je crois que c'était l'année d'avant ou 2, 3 ans avant, du Quai 54, où il était venu, il était dans sa voiture au pied de la place de la Concorde. Il était censé rentrer sur le terrain parce qu'il était invité, il n'était pas sorti parce qu'il avait eu peur des émeutes, etc. Donc on s'était
Ah,
dit, finalement, c'est une légende urbaine, quoi.
je connaissais même pas cette histoire, tu
Ah
vois,
ouais,
mais
il était sur place, ouais.
Et donc, je m'étais rassuré en me disant, personne, enfin, il sera pas là en tout cas. Et effectivement, j'arrive là-bas, je croiserai Miro Vershon, l'équipe de First Team, je crois que Théo, on se croise aussi, je crois que tu y étais. Il y a l'équipe de Trash Talk qui est là aussi. Ah non, eux, ils m'ont carrément appelé pour me dire, ah ouais, mais c'est vrai alors cette histoire? Je fais, oui, c'est vrai, parce que ça commençait à parler un peu. Du coup, j'ai fait un petit post Instagram pour dire aux gens, soutenez-moi. un peu en dernière seconde, parce que vraiment, j'ai mes petites croyances et je voulais pas que ça me porte l'œil. Et puis surtout, je voulais pas qu'il y ait de lumière sur ce truc-là en particulier, surtout si je me plantais. Et en fait, j'arrive et je vois bah, Yanis en train de faire des shoots, je vois Dell Curry, je vois Dikembe Mutombo, et on s'était croisés à Londres. Il me reconnaît, il me fait, ah mec, comment ça va? Je lui présente ma femme, on fait une photo ensemble. Enfin, vraiment, rien n'était réaliste, tu vois. Il y a le PSG qui arrive avec Mbappé, Verratti et tout qui se mettent qui s'assoit. J'étais là, mais ça, il y a Teddy Riner. Il y avait Jamel Debbouze, enfin, tu vois, ça commence à... Il y a Jospin, enfin, tu vois, il n'y avait rien qui était. À ce moment-là, je déconnecte. Et je vais dans la loge, je bosse une dernière fois mon truc. On m'appelle pour aller sur le terrain. J'y vais. Et là, j'entends la foule qui font waouh! Parce qu'en fait, je ne me rends pas compte, mais avec la first team et avec plein de choses que je fais, il y a beaucoup de
Bah
gens qui
ouais.
sont dans la salle, qui sont fans de basket, qui me connaissent un peu. Puis donc, vraiment, j'ai un support génial, tu vois. Et avant que je me place, donc, et là, les équipes vont se mettre sur les côtés. Et là, il y a Batoum qui vient me voir, qui me dit, tu sais qu'il y a le patron qui te regarde. Et
Oh
je
le
regarde
bâtard.
en haut et je vois la loge en face de moi, vraiment. Je vois un mec, je vois Jordan comme ça. Et j'étais là, oh la vache. En plus, du coup, tu regardes à droite, à gauche, tes yeux se perdent. Oh, tu vois Kareem Abdul-Jabbar, tu vois Tony Parker. Enfin, tu vois, j'étais là, genre, voilà, oh la vache. Et donc, heureusement, ça commence par. Déjà, il y avait eu l'hommage à David Stern. Après, il y a eu l'hymne américain. Et là, ils disent, et maintenant, et le speaker, wax. Et j'étais là, oh la vache. Et donc, en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'en reviens là, moi, j'avais bossé ma version de la Marseillaise avec des notes à droite, à gauche qui. Pour rappeler un peu Hendrix. Voilà. Et à partir du moment où je fais ta-na-na-na, et là, tout le monde, enfant
Ah
de là. Et donc, on est 25 000 à la chanter, en fait.
Ouais, donc
Et
tu es
donc,
obligé de garder le rythme.
mon plan tombe à l'eau.
Eh oui.
Donc, je ne peux pas du tout faire ce que je veux. Et donc, j'ai suivi le public et on l'a fait ensemble.
Bon,
Et
c'est encore
en
mieux.
fait, ça a été de l'improvisation totale. Du coup, là, tu n'es plus du tout en stress. Tu es juste dans le. Ok, on joue le truc ensemble. Et il y a un moment où j'ai senti le truc, j'ai commencé à accélérer le tempo. Et puis après, j'ai commencé à vivre le truc, à mettre mes bras en l'air. Et là, je me suis dit, putain, c'est le plus beau moment de ma vie. Et là, effectivement, à la fin, j'ai fait un dernier accord, j'ai regardé Jordan, je me suis dit, allez, putain, j'ai kiffé.
C'est magnifique parce qu'au bout du compte, tu l'as joué comme une collab en fait. C'était une collab
Ah ouais,
avec Bercy, quoi.
finalement,
C'est ça qui
ouais.
est fou, quoi.
Ouais, j'avais 25 000 choristes avec moi.
Moi, il y a une autre collab dont j'aimerais te parler parce que je suis désolé, mais tu t'es bien fait enfler sur celle-là. C'est un peu tu sais, le truc Deliveroo, t'es avec ta femme, tu lui dis qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu lui dis bah comme tu veux, et elle va chercher là, tu sais, le truc avec le tofu, machin. Alors toi, t'avais envie de lui faire un burger, machin. T'as demandé à ton épouse sur son disque qu'est-ce que tu veux faire, et elle te sort Depeche Mode. Que tu n'aimes pas du tout, et c'est elle qui balance l'info en plus, nous on ne savait pas, parce que dans le clip qui est ensemble, bon bah, ton épouse, on la connaît, c'est Pénélope Bagieu qui est
Bien sûr.
autrice de bande dessinée, qui a sorti son dernier album, magnifique, Les Strats, qu'on vous conseille bien évidemment, et tout ce qui précède, Les Culottés, etc., superbe série. Et donc, dans la vidéo où tu fais I Just Can't Get Enough avec elle, où elle balance le fait que tu n'aimes pas du tout Depeche Mode, en fait, raconte-nous cette espèce de mauvais tour du destin qui t'est retombé dessus.
Non, mais en fait, on a toujours, en fait, on a des goûts archi similaires sur tout. Et effectivement, on a un ou deux points de discorde, dont Dépêche Mode. C'est-à-dire que moi, vraiment, Dépêche Mode, mais en fait, tout est lié aux arrangements pour moi. C'est-à-dire que les trucs qui sont hyper, hyper 80s ou hyper 90s, tu sais, genre début 91, 92, dans la pop, tu vois, ou des choses comme ça, il y a des trucs qui ont mal vieilli à mon goût,
Daté,
tu
ouais.
vois. Et les trucs, bah, là, je sais qu'ils utilisent des synthés qui font ta 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 ta, tu sais, des trucs comme ça. Et moi, vraiment, c'est des
Toujours
no-go zones. Tu vois, c'est vraiment, il y
mauvais
a
goût.
marqué n'y allons pas. Et à chaque fois qu'on va en soirée, à chaque fois qu'on fait une soirée à la maison, qu'il y a plein de monde, elle passe toujours des morceaux de Dépêche Mode. Et je la vois danser. Et en fait, je suis heureux de l'avoir si heureuse, tu vois. Mais moi, par contre, d'un point de vue musical, vraiment, pour moi, c'est pas ma culture. Et donc, du coup. Quand je lui ai dit, écoute, sur cet album, ça me ferait plaisir que tu y sois, elle m'a fait d'accord. Et je lui ai dit, au bout d'un moment, parce que je commençais à enregistrer de plus en plus de guitare-chant, je lui ai dit, il faudrait qu'on fasse notre morceau ensemble, tu voudrais faire lequel? Elle me fait, bah, Dépêche Mode. Et donc, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, c'est ton morceau. J'ai pas choisi les morceaux de mon album. Et ben, bah, vas-y, let's go. Et en fait, en la faisant, je me suis dit, et ça, c'est assez thérapeutique parce que plein de fois, ça m'est arrivé avec des artistes qui me proposent des morceaux ou que j'aime pas ou que je connais pas du tout, mais quand à la première écoute, j'aime pas spécialement, j'ai su reconnaître sans aucun problème que Dépêche Mode, c'était de la grande écriture. C'est-à-dire que
C'est bien sûr.
vraiment, les mélodies et tout, c'est tellement malin, c'est tellement fin. Et j'ai compris pourquoi, tu vois, par exemple, il y a un groupe que j'aimais pas beaucoup quand j'étais plus jeune qui était The Cure. Et j'ai appris à connaître The Cure. peut-être 10 ans après avoir découvert pour la première fois. Et j'ai mis du temps à y venir, mais parce que j'ai fait une reprise avec un artiste d'un morceau qui s'appelle Friday I'm in Love. Et j'ai écouté le titre tellement en le préparant que je me suis dit, mais en fait, j'adore et je suis devenu fan des Cure. Mais si j'avais pu derrière être, tu sais, président d'honneur du fan club de France des Cure, j'aurais signé, quoi, tu vois,
Ok.
alors qu'à la base, j'aimais pas. Et Depeche Mode, il commence à y avoir un espèce de truc comme ça où je commence à avoir une addiction aussi pour ce groupe maintenant, quoi.
Théo, c'est quoi toi le morceau qui t'a fait soit aimer la musique, soit qui t'a donné envie d'en faire? Parce que Théo, il dit rien, mais l'autre jour, il a posté une photo sur le fil de Hoop Culture où il montrait son coup de cœur de la semaine là de fusil, mais derrière, il y avait une petite MPC quand même, un petit coquin. Je dis rien, mais.
Ouais, mais moi, c'est
Oui, oui,
en grand
oui.
amateur.
Oui,
Mais
oui,
c'est
oui.
non, je me posais la question, parce que quand t'as commencé à en parler, Wax, alors ça va faire hyper cliché, mais honnêtement, je pense que si je devais retrouver la première chanson, vraiment la première, je pense que ce serait. Putain, c'est fou.
Bécassine.
Hein? Casimir, t'as dit? Bécassine.
Bécassine,
Bécassine. Non, j'allais dire une chanson douce de Doris Salvador, juste parce que c'était voilà la berceuse que me chantait ma mère. Mais sinon, le moment où je me suis dit non, moi j'aime la musique, c'est ma passion, c'est lié à un film, c'est la bande originale des Blues Brothers, qui est un de mes
Ah
films
ouais.
préférés. Et c'est là en fait que j'ai découvert parce que ma famille n'écoutait pas du tout ce genre de musique. C'est là que j'ai découvert la black music en fait, rhythm and blues, soul. Et à
Bien
partir de
sûr.
là, c'était ma quête, donc moi je cherchais des trucs comme ça. Et après, quand le rap est arrivé, j'ai pris comme une claque parce qu'en fait, c'était les trucs qui samplaient voilà,
Bah ouais, bien
ces trucs
sûr.
que j'avais adorés. Et après, j'ai plus jamais regardé en arrière. Après, voilà, maintenant j'aime tout un tas d'autres choses, mais mes premiers gros souvenirs, je pense que c'est cela. Ouais.
Et donc ça veut dire qu'on aurait repris Need Somebody par exemple ensemble.
Ah bah ouais, carrément,
Ouais.
carrément. Et
Et
je
toi?
suis. Ouais, vas-y, pardon.
Non, j'allais dire, et toi, Pierre Armand, qu'est-ce qu'on aurait repris sur
Bah, en
Étincelle
fait,
ensemble?
c'est là où vous avez raison, c'est le moment où quand t'es petit, t'écoutes des morceaux, puis t'aimes toujours la musique, puis il y a celle qui te donne envie d'en faire. Moi, ma mère, elle m'avait collé au piano pendant des années et ça me cassait les couilles. Le plus beau moment de ma vie, c'est le jour où ma prof de piano dit ouais, je déménage, je m'en vais. Donc, je me suis dit, tu sais, super, j'arrête. Et elle me recolle chez un autre prof. Sauf que le prof, un jour, il me dit j'arrive dans 2 minutes. Et je vois il était prof de plein d'instruments et je vois une batterie dans son salon. Et ma vie change, tu vois.
Ah,
Et en
waouh.
fait, il me fait essayer. Et du jour au lendemain, bon, bah, j'arrête le piano. Je dis à mes parents, c'est fini, c'est ça que je veux faire. Et en fait, les premiers jours, il me dit, ouais, écoute ça, parce qu'il y a quand même plein de trucs. Et en fait, moi, le premier morceau, alors peut-être que, je pense que Théo, toi, ce que je vais te dire là, ça ne parle pas du tout. Mais peut-être que Wax, toi, oui. C'est Children of the Damned sur Number of the Beast d'Iron
Bien
Maiden.
sûr, bien sûr.
Qui est où il y a 1000 rythmiques différentes, enfin voilà, et puis c'est voilà. Donc ça, c'est un truc que je peux écouter aujourd'hui en m'endormant, tu vois, c'est-à-dire ça me berce pour dormir.
Je comprends
Et
tout à fait.
le deuxième, et si moi je devais faire un morceau avec toi, tu vois, un truc avec Wax, c'est que quelques années après, en écoutant du hard rock machin chez un copain, même amateur de musique, je prenais des cours de batterie, donc on me faisait jouer du Toto, ça passait de Jonas et tout. Et là, j'entends Sade, quoi. Pour la
Ah
première
ouais.
fois de ma vie,
Ouais.
j'entends Sade. J'entends, je sais plus lequel, je crois que j'entends Easy to Crime de Sade avec ça. Et là, il y a tout qui bascule de l'autre côté, parce que je me dis, mais on peut aussi jouer ça, on peut aussi faire ça.
Ouais.
Et je pense que voilà, si j'avais fait un truc avec toi, voilà, ça aurait été un morceau de Sade, peu importe lequel. Enfin,
Bah, très
mais...
très bonne sélection. En plus,
Voilà,
Sade,
donc
ça joue la mort, hein, Sade. Hein.
ça joue mortel, ça joue anglais. Et de toute façon,
Ouais,
dès
ouais.
que ça joue anglais, ça joue la mort.
Et tu vois, et le pendant des gens qui jouent anglais et qui jouent très très bien avec beaucoup de goût et raffiné, mine de rien, Toto, ça joue la mort aussi, tu vois.
Bien sûr,
Jeff
Steve
Porcaro à la
Porcaro.
batterie, attention.
Qui encore une fois est Jeff Porcaro qui est le batteur sur Billie Jean, donc l'un des riffs les plus connus de l'histoire de la
Ouais,
musique.
sur Thriller, globalement, il a quasiment
Il
enregistré
joue
tous les
pratiquement
morceaux.
tout. Ouais. Et
Ouais.
alors voilà, t'apprends le ça te permettait d'apprendre à jouer une rythmique qui était des plus binaires comme tu as fait sur Nirvana, etc. Et d'un coup, tu rencontres ce que toi tu as rencontré sur les Blues Brothers, tu rencontres le groove, quoi. Et ces deux mondes qui sont totalement. T'as l'impression qu'ils sont totalement hermétiques et en fait qui sont où tu peux jouer. Alors essaye pas de jouer Number of the Beast avec le batteur de James Brown si tu veux,
Ouais, non,
avec
clairement.
Bernard Perdue, mais essaye de mais et l'inverse. Mais voilà, c'est la rythmique au centre de tout et de mille manières différentes. Mais c'est vrai que c'est Children of the Damned, le premier qui m'a, comme tu dis, qui m'a mis comme ça.
Eh ben écoute, j'aurais été ravi de la reprendre dans l'étincelle avec toi.
J'aurais fait une version de celle-là. J'aurais eu beaucoup de mal à la pousser.
Et tout à l'heure, Wax, tu disais donc que cette étincelle, justement, c'était quand tu avais 9 ans, mais que tu étais déjà passionné de basket. En fait, moi, j'avais pas percuté que finalement ton amour pour le basket était même plus ancien que celui que tu avais pour la musique. Tu es tombé vraiment super, super môme dedans.
Bah en fait, comme je disais, alors ma mère était championne du Berry de basket et mon père était champion, alors cadet, je crois, d'Istanbul. Il jouait pour Beşiktaş, okay. mais vraiment, tu sais...
Pas les mêmes ambiances.
Section amateur.
Ouais, voilà. Ouais, vraiment section amateur, ouais. Et pas les mêmes ambiances, ouais. Et donc, dans la famille, le basket, mon oncle, lui, a été champion de France de basket. C'était à une époque où il y avait des championnats individuels. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'était dans les années 60. Il y avait des championnats, des skills challenge, en gros, ce qu'on appelle okay. des skills challenge aujourd'hui. Donc, la passe, le shoot, le machin, etc. Et ils faisaient ça par région. Et à la fin, il se donnait rendez-vous à Paris. Il y avait une finale, donc où il y avait, je sais pas, une dizaine de participants. Et il a été champion de France devant Alain Gilles.
Légendaire.
Légendaire.
Ouais. Non, ça.
Et donc, quand j'étais petit, il y a toujours eu dans cette petite maison dans le Berry où on allait avec mon frère quand on était petit en vacances, un panier de basket. Et mon oncle, à chaque fois, ça rigolait pas. Il nous disait bon, allez, on va commencer les entraînements, les machins. Et donc, dès que j'étais petit, on faisait du basket tout le temps, en fait. Et donc, moi, j'habitais dans le 10e arrondissement. Je me suis inscrit à la Grange Aubel en poussin ou en je sais plus quoi. J'ai jamais arrêté de faire du basket. Et vu que mon oncle de Détroit nous avait envoyé des fringues, des Pistons, moi, je pensais que c'était une marque de fringues au début. Hein. Je savais pas que c'était une équipe de basket. J'avais ma jacket des Pistons, mon jogging des Pistons, mes chaussettes des Pistons, mon t-shirt des Pistons. J'étais pistonisé à fond. Et quand j'ai compris plus tard, en allant à mes entraînements de basket, que les autres disaient « Mais t'as eu ça où ?» et tout. Tu sais que c'est la NBA et tout. Je ne comprenais pas du tout de quoi on me parlait. Et en fait, le basket aussi en France à cette époque-là, début des années 90, il y avait quand même Poortez et Limoges qui se tenaient la dragée haute. Et vu que ma famille dans le Berry n'habitait pas très loin de Limoges, dès qu'on allait là-bas, on allait voir des matchs de Limoges. J'ai été dans les gradins... À 7 ans, j'étais déjà comme un dingue. Donc, en fait, le basket a vraiment été dans ma vie, mais tout le temps, quoi. J'ai jamais quitté. C'est la... Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disent « C'est quoi ta série préférée ?» Je dis « Mais c'est le basket, quoi. » Il y a toujours des nouveaux acteurs et j'adore. C'est mon feu de l'amour à moi, quoi.
Nous, ouais, on s'était pas rencontrés, tu disais tout à l'heure, mais on s'était parlé, puisque dans le cadre du Reverse spécial Chicago, j'avais eu le plaisir de te poser quelques questions sur Asia Thomas.
Oui.
Dans ce papier, on avait fait une interview. Cette vidéo qu'avait mis First Team en ligne, c'est je crois que c'est à chaque fois que j'ai pas le moral un jour, je vais regarder cette vidéo parce que c'est vraiment le moment feel good absolu, la surprise ultime. J'ai deux questions. Un, tu t'y attends vraiment, vraiment pas du tout. Et deux, tu sais, quand on dit tu t'effondres, toi tu lâches ton chapeau en voyant Asia Thomas et tu lui dis un truc intéressant, c'est il y a Michael Jackson et à toi.
Ouais, mais en fait, ils sont pas très bons acteurs, les gens de la First Team. Donc, je comprends qu'il y a une surprise pour moi à un moment donné parce qu'ils gaffent sur un truc et en gros, eux. Par contre,
mais ils disent que c'est un autre joueur. Ils
savent très bien rebondir et ils me disent bon, tu vas rencontrer peut-être un joueur des Pistons. J'ai fait waouh, et ils font ouais, tu vas rencontrer Kwame Brown.
Non. Et le chapeau tombe moins.
Ouais, et en fait, je dis bon bah écoute, cool. Enfin, tu sais, ça reste un joueur NBA et à l'époque, j'ai jamais rencontré un joueur NBA de ma vie, donc. Je dis, bah écoute, cool, Kwame Brown. Moi, en souvenir, j'ai quand je pense à Kwame Brown, je pense à Stephen A. Smith qui le défonce de ouf dans cette interview qui est mythique où on parle de l'échange entre Pau Gasol et lui, tu vois. Et en plus, moi, j'ai le souvenir du joueur qui avait quand même un petit peu les mains carrées, mine de rien. Et donc je me disais, son passage aux Pistons, en plus, il n'était pas dingue, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et après, je me dis, de toute façon, ils m'ont dit que ce n'était pas sûr. J'espère que ce n'est pas vrai, que je vais le rencontrer, tu vois. Et en fait, on va dans un endroit où ils étaient en train de s'entraîner tous, les équipes. Et après, on reste, on fait des shoots. Et en fait, il y a un de mes potes qui était cadreur, on joue, on fait un, je sais plus quoi, un horse, un truc comme ça. Et vraiment, il n'y a eu aucun bruit dans la salle. Il n'y a même pas eu un oh ou un truc comme ça où je me suis retourné. Il n'y a vraiment eu aucun bruit jusqu'à ce qu'un mec tape sur mon épaule. Je me retourne et je le vois. Et là, vraiment, c'était le méga choc, quoi. Parce que pourtant, enfin, en fait, je crois que ça me fait ça avec personne d'autre, tu vois. Je
Tu le
pense qu'il
prends
y a.
dans tes bras, tu as cette
Ouais.
réaction où c'est même pas genre, enfin, tes émotions font que normalement tu l'aurais peut-être serré la main ou bonjour. Là, le mec, tu l'attrapes, c'est ton doudou, quoi.
Mais ouais, c'est comme je te disais, le basket, c'est tellement une série pour moi que les Pistons, les Bad Boys, pour moi, c'est mes Beatles, tu vois. C'est vraiment, je les aime, mais d'un amour, mais qui est incroyable. Je connexionnais toutes leurs cartes, toutes leurs histoires. J'ai appris presque à parler anglais en recevant des magazines de ma famille de Détroit avec des on vous refait l'histoire des Bad Boys, des machins. Je regardais des cassettes PAL SECAM à l'époque, ou avec l'histoire des Bad Boys, des machins. Enfin, pour moi, Isiah Thomas, il fait partie de ma famille, quoi. Et ça me fait pas vraiment ça dans la musique, c'est étrange, mais j'ai rencontré des gens que j'idolâtre depuis que je suis tout petit, dans ma petite carrière. Et à chaque fois, tu sais, je suis ému, c'est super et tout, mais il y a pas ce côté. Là, vraiment, c'est. Je sais pas. Et c'est pour ça, je serai un éternel défenseur tout le temps de Isiah Thomas, parce qu'il me fait de la peine dans son traitement médiatique quand les gens disent, ouais, mais quand même, c'était une pute et tout. Je fais, mais non, mais pas du tout. Vous le comprenez pas. Vous le comprenez pas, c'est le plus gentil. Et en fait, il a été tellement gentil avec moi. Le soir, on s'est revus, il m'a présenté sa femme, on a regardé le match ensemble, on a échangé nos numéros, on s'est suivis sur les réseaux, on s'envoie des nouvelles peut-être tous les 2 mois.
Ça, c'est marrant.
Tu vois, je me suis marié, il m'a fait congratulations, mec, et tout, c'est ouf. Je montre à ma femme, je dis, c'est Isiah Thomas qui nous dit bravo pour le mariage. Enfin, tu
C'est ouf.
sais, j'en reviens pas. Il m'a souhaité mon anniversaire la semaine dernière. Enfin, vraiment, ça a aucun sens. Et vraiment, s'il y a bien un mec pour moi qui me fait cet effet-là, c'est lui. Et effectivement, le fait de l'avoir rencontré, c'était le plus beau cadeau que pouvait me faire la First Team, quoi.
Que tu me l'as sauvé à moi aussi parce que quand Théo il m'a appelé, il me dit bon, tu vas pas être content, on fait un truc sur Chicago. Je te file un article sur Asia Thomas. Je suis oh non, c'est une pute. Et il me dit tu fais un article sur Asia Thomas. Je me suis dit bon, c'est une pute, mais je vais écrire 10 pages sur lui. Je vais apprendre qu'il c'est un mec sympa. Je fais mon truc, genre tu sais, je finis l'article, je ferme l'ordi, je fais ça reste une pute. Tu vois, et je dis à Théo, mais est-ce que tu as les coordonnées de Wax parce que. Bah, lui, il l'a rencontré et j'avais cette vidéo en tête. Bah, c'est là où tu me racontes que tu as continué, là, vous avez continué à vous voir et tout. Et je me dis, mais non, un connard, il a pas, il aurait pas fait ça avec un petit gars qui rencontre à Londres, qu'il a jamais vu et tout. Et on voit tout de suite, quand tu lui parles et que tu lui dis, tu lui fais les compliments qu'on a dû lui faire 100 fois, des fans comme toi. Tu sens que lui aussi à l'intérieur, il est, tu l'as attrapé quoi.
Ben
Et
ouais,
du
mais en
coup,
fait, c'est
il dit, oh,
insensible.
c'est une petite pute, mais moins quand même, tu vois.
En fait, c'est un ultra sensible
Ça se voit, ça se
et
voit.
il est ultra sensible au fait qu'on puisse avoir aimé son travail ou il est toujours. Enfin, moi, le peu de fois où je l'ai vu ou le peu de fois où je lui ai parlé, parce qu'après on a fait des trucs pour la NBA où on s'est fait un peu comme là du Zoom ensemble où on se reparlait de plein de choses et tout. Quand je lui dis, et tu te rappelles cette action machin, et je le vois même, il m'émeut à fond sur Twitter parce que dès que quelqu'un dit, n'oubliez pas qu'Isiah Thomas aussi a existé, a fait des super trucs, il le retweet, il fait, ah merci beaucoup, il faudrait que les gens le sachent. Enfin, tu sais, il est vraiment genre. Et en fait, vraiment, je vous jure, en tout cas, on dit tout le temps, c'est pas bien de rencontrer ces idoles. Moi, je suis trop content que mon idole, ce soit pas Michael Jordan parce que je pense que jamais il m'aurait donné l'heure et jamais il aurait fait. Mais le 20e de ce que Isiah Thomas a fait, mais je parle de Jordan comme ça, mais il y a plein de joueurs que j'ai eu la chance ou pas de rencontrer depuis et où j'ai fait, ah ouais, vraiment, heureusement que c'était pas eux, les gens que j'idolâtre. Et ce mec-là, qui aurait pu être vraiment super pas sympa ou vite fait, tu vois, c'est le meilleur. Voilà.
Théo, quand il a rencontré Jordan, il a voulu lui faire un hug aussi. Il a pas pu shooter main droite pendant 2 ans et demi, quoi.
Ma main s'est perdue dans la sienne, par contre. Ça, c'est clair que c'est un truc de malade, quand même.
Et
Vraiment,
mais
c'est.
Théo, ça c'est fou, parce que tu vois, quand on a fait le spécial Jordan, c'est le jour où j'ai appris que tu avais interviewé Michael
Un des
Jordan. Et il y
rares,
a,
un des très rares.
peu de gens qui peuvent dire ça.
Surtout
Ouais,
d'avoir passé le
bah.
temps que tu as passé, quoi.
Ouais, bah, j'ai eu une chance énorme. Hein. C'était le magazine pour lequel je bossais à l'époque, qui s'appelle Tyler, que j'ai adoré. D'ailleurs, un magazine qui n'était pas que basket, qui était aussi qui était sport et c'était sport et cultures urbaines, la tagline. Donc
Ouais.
ça parlait de tout. Moi, j'ai adoré bosser pour ce magazine. Et c'est vrai qu'il m'avait proposé, quand Jordan était venu pour une opération commerciale, de faire l'interview. Moi, je n'en revenais pas. J'ai passé 10 minutes avec lui. Et pour le coup, ce qui est fou, enfin, je l'ai déjà dit, mais je le redis, en fait, ce qui est dingue, c'est, tu sais, on parle tout le temps de son charisme. C'est un vrai truc de malade, en fait. C'est ouf, ce mec-là, je lui ai posé les questions que 25 000 journalistes lui ont posées, pardon, et en fait, t'avais l'impression que c'était la question la plus intéressante qu'on lui ait posée de sa carrière, te regarde dans le fond des yeux, il te répond, il développe et tout. C'est. Voilà, c'est ce truc parfois qui est intangible. Qu'est-ce qui fait une superstar? C'est vrai dans la musique, c'est vrai dans le sport, en fait. Il y a des gens qui ont ce truc en plus de leur talent. Et ouais, Jordan, c'était ça. Moi, j'ai passé un super bon moment. Après, voilà, il n'y avait pas autant de proximité que toi avec Isaiah Thomas, pour le coup.
Ouais, mais t'as interviewé Michael Jordan et c'est un achievement quand même. Enfin, moi, je
Ouais,
trouve c'est extraordinaire.
je cache pas que j'étais prêt à prendre ma retraite et mettre mon dictaphone au plafond chez moi et me dire j'ai changé de boulot maintenant.
Mais tu sais que Barclay, il l'avait dit que c'était qu'il sortait et qu'il venait jouer à Philadelphie, qu'il sortait. C'était un peu comme le gars, tu sais, t'es en Camargue et t'as un type qui prend plus les moustiques que les autres et tu le mets devant toi, comme ça, t'es sûr qu'il prend. Et lui, il disait pareil, c'est-à-dire que il le mettait genre à une table de billard et les gens étaient tellement. Et il n'y avait pas de portable à l'époque, étaient subjugués, le regardaient jouer au billard et les autres, ils allaient boire des coups tranquilles. Donc ça. Mais tu reparlais de la sensibilité et de la blessure d'Asia Thomas, et pour mettre en rapport avec Jordan, je pense que Asia Thomas, qui avait mis du temps en repassant sur NBA TV, en faisant cette émission Open Court, etc. Je pense que The Last Dance a dû lui en coller une derrière la tête encore, parce
Bah
que
ouais.
l'image, elle est désastreuse, quoi.
Puis le monde entier regardait The Last
C'est
Dance. On
ça, c'est ça.
était tous confinés, tout le monde se
Ah bah
souvient
oui.
où il était
Ah,
quand il
c'est
a regardé The
catastrophique.
Last Dance.
Ah, mais tout.
Et ouais, vraiment le traitement qui est fait de ce petit bonhomme, je trouve ça vraiment pas cool, honnêtement. Et j'ai lu aussi Libéré de Scottie Pippen. Et pareil.
C'est pas une dope, c'est une dope quand même.
Bah, c'est le journal intime de quelqu'un dont tout le monde voudrait avoir sa carrière et qui est aigri as fuck et
Voilà,
qui
on en
dit
a
que.
parlé, on a eu le même ressenti.
Ouais, franchement, j'ai été archi déçu par ce livre, pour être tout à fait honnête. C'est pour ça que c'est d'habitude, quand j'ai des lectures, des trucs comme ça, je conseille toujours aux gens quand j'ai bien aimé. Là, vraiment, j'ai même pas dit que je l'avais lu parce que. Bon, là, je le dis là parce qu'on en parle, mais vraiment. Mais à limite sur Isaiah Thomas, bon, voilà, tu vois. Mais ce qu'il dit sur Jordan, enfin. Enfin, bon, t'as le droit d'avoir des ressentis, mais pour moi, il y a des trucs qui peuvent rester en privé. Et c'est écrit vraiment avec tellement de. Enfin, il y a trop de ressentis de sa part. Il est trop en colère. Et je pense que c'est jamais bon de créer, en général, que ce soit de la musique, que ce soit du podcast, que ce soit même un tweet. C'est jamais bon de le faire à chaud. Et lui, il a carrément écrit tout un livre à chaud.
Ah ouais, lui, c'est enferré, ouais.
Et c'est infernal.
Ouais, c'est triste pour les deux parce que c'est deux joueurs immenses, hein, vraiment, et je trouve qu'ils
Y a
sont
pas de question.
desservis par leur communication, en fait, l'un comme l'autre, et qu'ils sont plutôt maladroits là-dedans. C'est vrai que. Moi, finalement, même après The Last Dance, j'ai pas trouvé que ni Isaiah Thomas ni Scottie Pippen étaient particulièrement mis à mal dans le documentaire, en fait. Surtout que les histoires, nous, on les connaissait. Enfin, ouais, que c'est pareil. Je pense que là-dessus, t'as rien appris de particulier sur eux, en fait. C'était, tu
Non,
vois.
mais par contre, tu vois, ma femme qui ne connaissait pas le basket, et c'est là où The Last Dance est quand même bien fait, c'est que. Combien de personnes on connaît qui connaissent rien au basket ou qui s'y intéressent pas, qui viennent nous voir parce qu'on aime bien le basket et qui nous parlent
Bien
de The
sûr.
Last Dance en
Ouais.
disant ouais, The Last Dance, j'ai vachement aimé. Et tu vois, par exemple, la plupart des gens, ma femme par exemple, m'a dit oh, le pauvre Isiah Thomas, c'est vraiment
Ok.
pas sympa ce qu'ils lui ont fait. Le pauvre Scottie Pippen, c'est vraiment pas sympa ce
Ah
qu'ils lui
ouais?
ont fait.
J'ai pas
Bah
ressenti.
ouais, bah parce que quand même, on voit qu'il se démène à fond, qu'ils lui font un contrat pourri, que tu vois, qu'il est frustré, que machin. Puis on peut pas s'enlever de la tête que ce qu'on voit dans The Last Dance, Je sais pas quel âge vous avez, mais on doit tous être dans la quarantaine. Enfin, moi, je suis dans la quarantaine depuis une semaine, donc j'en suis très fier.
T'es le plus jeune dans la quarantaine par rapport à
ouais,
nous.
Moi, je l'ai quitté il y a 2 mois, donc si tu veux.
Ok, d'accord. Mais dans The Last Dance, on regarde quand même des gens, no offense à nos gens qui nous écoutent, qui sont très
Bien
jeunes,
sûr.
mais on regarde des gens qui ont 25 ans, et à 25 ans, ta réaction, tu sais, quand il
Ouais.
veut, à 1,8 secondes de la fin du match, il veut pas rentrer en jeu, Scotty veut pas remettre la balle en jeu, etc. À 25 ans, si j'avais été filmé par la Terre entière, je ne sais pas comment j'aurais agi.
C'est
Peut-être que
clair.
j'aurais fait plein de bêtises, que je suis content qu'on ne m'ait pas filmé à cette époque-là, tu vois.
Mmh.
Donc, ouais, à chaque fois, on regardait le truc en disant, oh, le pauvre et tout, tu vois, vraiment. Moi, j'ai plus eu de la peine en me disant, ça ne doit pas être facile, sa vie. Bon, il gagne beaucoup d'argent et tout. Mais je veux dire, ça ne doit pas être facile d'être constamment le numéro 2, d'être frustré par plein de trucs, d'être sous-coté aussi par les médias locaux. Il y a plein de choses qui. Voilà, moi je suis très empathique, donc à chaque fois j'essaie de trouver des raisons à tout, tu vois.
Mais
Et
finalement, il défend et il essaye de nous convaincre de quelque chose dont on est convaincu. C'est-à-dire que qui nous
dans
raconte
le livre, dans le livre.
oui, qui nous
Ah oui,
raconte
mais le livre, il est insupportable.
des coulisses ou
Ouais.
quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais là, il essaye de nous convaincre qu'il était pratiquement un des meilleurs numéro 2 de l'histoire ou un super défenseur. Mais c'est bon,
Non, on le
mec,
sait.
on le sait.
Bien sûr, bien sûr.
C'est sûr, c'est acquis. Tous les jours, on le dit. Tu es même à la une, tu es même sur la couverture du Mookie Fence de River.
Exactement.
Toi, tu as tutoyé le soleil, là.
Mais en fait, tu sais, je vais être honnête avec toi. Moi, je fais toujours des parallèles avec la musique et le basket. Donc là, je vais te faire un parallèle avec la musique. J'avais l'impression, si Hendrix était encore en vie, c'est comme si Hendrix avait fait un livre où il disait, ouais, parce que Eric Clapton, ça va bien.
Oui.
Santana, ça va bien. Moi, vous savez ce que je faisais? Moi,
Oui, c'est
nananana.
ça.
Eh non, mais gros,
Ouais.
t'as pas besoin de le dire. C'est
Ah
toi, on sait que t'es le GOAT.
oui.
Arrête.
Ah oui,
Tu nous
oui,
fais de
oui.
la peine, là, à écrire ça.
Ouais,
On
je
sait que
vois.
t'es.
Non, c'est un bon parallèle, effectivement. C'est un super bon parallèle. On pourrait parler basket, mais d'ailleurs, fois qu'on refasse, on en refera une avec toi, Wax, parce que là, on a à peine commencé à parler de basket, mais
Ah ouais.
on voulait te proposer de participer à nos petites rubriques de fin d'émission. Alors, je sais pas, on commence toujours par les coups de cœur. Est-ce que toi, t'as eu un coup de cœur cette semaine dans ta vie, un truc que t'avais eu envie de partager avec nous?
Alors, bah, du coup, ça a rien à voir avec le basket, mais je peux le partager quand même avec vous. J'ai vu une série extraordinaire qui s'appelle Jury Duty. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Du tout.
Pas du tout.
Ok,
Pas
alors
du
je vous
tout.
le pitch rapidement. En gros, c'est une série télé-réalité. Alors, ça peut rebuter comme ça, mais je vous explique. En gros, c'est un prank. Il y a un procès assez minable d'ailleurs, où il y a des jurés qui sont mis en star un peu, c'est-à-dire qu'ils les filment. C'est soi-disant pour un documentaire, mais c'est réalisé par les mecs qui ont fait The Office, il me semble. En tout cas, c'est exactement le même traitement que The Office. Et au milieu de tous ces jurés, il y a un seul mec qui est vraiment juré. Tous les autres, c'est des acteurs.
D'accord.
Tout le monde est faux. Le procès est faux, tout est faux. Et en fait, c'est un peu le Truman Show. Et c'est à crever de rire. Parce que moi, j'aime pas les trucs un peu potaches et tout. Là, c'est vraiment genre que des trucs pour voir comment lui réagirait face à des situations qui peuvent être normales, mais où, tu vois, genre, il y a une petite injustice. Est-ce que c'est genre une poucave? Ou est-ce qu'il va plutôt essayer de cacher les choses? Tu vois, par exemple, il y a un moment, il y a un des personnages qui est d'origine coréenne et qui parle quasiment que coréen, et voilà. Et à un moment, il dit, ouais, j'aimerais bien jouer avec toi à un jeu, parce que quand on est juré dans un procès, il y a beaucoup de temps d'attente où on fait rien. Genre, ils disent, bon, ben, on reprend dans 2 heures, machin et tout. Et le mec lui dit, vas-y, on va jouer à un jeu coréen, tu vas voir, c'est super, c'est avec des petits bâtonnets. Tu balances les bâtonnets sur une feuille où il y a des ronds qui sont dessinés et il y a des points qui se cumulent, machin. Enfin, moi, il lui explique, mais on voit enfin, les règles sont un peu inventées, tu vois. Et le mec lui dit, bah, vas-y, on joue, ouais, il n'y a pas de souci. Et il joue, et genre, et le mec fait, balance les, le mec qui est pranké balance les bâtons. Et l'autre, il commence à faire, oh putain, c'est pas vrai. Oh la vache, mais attends, il y a ce bâton qui touche le trou. Oh là 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 là. Mais comment t'as fait ça? Tu sais que c'est le truc le plus rare. Et il lui dit, mais mec, je te dois 4000 balles. Il dit, et je suis désolé, mais c'est dans la. Dans, nous, les Coréens, on tergiverse pas avec ça, tu vois. Moi, c'est pas une blague. Et le mec lui fait, non, 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 mais mec, tu me dois rien du tout. Vraiment, on a fait juste un jeu comme ça. Il fait, si, si, je te dois 4000 balles. Et t'as tous les mecs autour qui font, mais si tu dois 4000 balles, mais faut que tu les acceptes. Et tu sais, à chaque fois, c'est que des trucs comme ça où lui, il fait, mais non, mais laissez-moi tranquille, je ne veux pas ces 4000 balles. Non, tu ne me dois rien. Enfin, en fait, il prend que les bonnes décisions. Et je regardais ce mec dans cette série, je me disais, putain, mais c'est vraiment un ange, tu vois. Et ils lui font faire des... Enfin, il y a des trucs, mais c'est incroyable. Je ne veux pas tout
C'est un
spoiler,
pari parce
mais.
que le type aurait pu être un sale con, ça aurait pu
Exactement.
flinguer le truc, quoi.
Et c'est fou, à chaque fois, il prend les bonnes décisions et tout. Et je me suis dit, vraiment, il y a des bonnes personnes sur cette planète. Donc, vraiment, je vous invite à tous le regarder. Si vous aimez un peu The Office, l'humour un peu décalé comme ça, c'est un régal.
Ah bah moi, je me suis noté ça direct, là.
Il n'y a que
Je vais aller
8
inspecter ça.
épisodes, 8 épisodes de 20 minutes. Tu le regardes vraiment en un ou deux soirs. Et c'est impossible de t'arrêter quand tu as commencé. C'est extraordinaire.
Pierre Armand, t'avais un coup de
Ouais,
cœur
moi
cette semaine?
j'en ai deux. Est-ce que tu me permets de... Alors déjà, on voudrait faire un petit mea culpa parce que la semaine dernière, notre coup de cœur, c'était ce pauvre type dont on vous avait mis la vidéo qui s'est fait gauler en train de conduire par un juge en Zoom alors il était jugé pour suspension de permis. Le juge l'appelle en Zoom et il est au volant de sa bagnole. Donc on s'est bien marré et il s'avère que finalement, ce type avait le droit de conduire. On lui avait donné un papier qui n'avait pas été enregistré. Et j'ai été stupéfait, je l'ai dit à Théo, on se l'est dit en antenne sur notre groupe. J'étais stupéfait de voir qu'aux États-Unis, il y avait des erreurs judiciaires sur des Afro-Américains. Ça m'a subjugué. Je ne savais pas.
Qui l'eût cru? Qui
Je ne
l'eût cru,
savais pas.
exactement.
Je ne savais pas. Mon premier coup de cœur, alors j'en ai un, je vais faire participer Wax. Premier coup de cœur, il a fait un super album, donc deux reprises qui s'appelle Étincelle. Tu sais, Théo, dans Culture, on parle d'Elodie Rama, une artiste qu'on aime beaucoup. Et elle apparaît dans un album de reprise, justement, par un artiste lyonnais dont le nom est Taggy Matcher, mais dont le vrai nom est Bruno Patchwork Ovard, qu'on retrouve derrière plein de projets qui sont Voilà, qui sont Empire Sound System, Mr. President, etc. Il a 1000 alias différents. Et il a fait un album de reprise et Elodie Rama, on la retrouve sur une reprise du morceau On and On d'Erykah Badu sur une version reggae. Voilà, donc je vous conseille d'aller écouter cet album de reprise après avoir écouté Étincelle, bien sûr. Mais cet album Taggy Matcher, l'album s'appelle Push Push et le morceau, donc c'est On and On avec Elodie dessus, donc ça vaut le coup. Et mon coup de cœur de la semaine, on parlait de biographie. Moi, je suis en train de lire une biographie qui me régale à un point absolu. Mais pour faire deviner, c'est un musicien. Et j'aimerais que je vais faire deviner à Wax sous forme de qui suis-je,
Ah yes.
comme on fait dans la First Team. Alors, je vais te la faire rapide parce que tu vas trouver vite, hein, j'en suis certain. On parle d'un musicien qui est né le 7 août 1958, qui est chanteur, compositeur, qui est animateur radio et qui était même directeur marketing britannique. Donc, tu as un petit indice, qui a mené une activité en solo, mais qui est surtout connu pour être dans un groupe. Il commence sa carrière au sein de petits groupes au lycée, université, parmi lesquels un groupe qui s'appelle Styx, à ne pas confondre avec le groupe américain du même nom, en 1976. Après, il est pendant 2 ans dans un groupe qui s'appelle Speed et un autre qui s'appelle Shot en 1979.
Attends, il est chanteur, hein?
Ouais. Il va
Ok.
acquérir une certaine notoriété dans un groupe un peu plus tard, après avoir fait une brève apparition dans le film Incubus, dans un groupe qui s'appelle Samson en 1979.
Oh la vache. Ça
Non, tu
me
l'as
dit
toujours pas
carrément un
avec
truc.
et il a un nom de scène qui s'appelle Bruce Bruce. Je vais te donner deux indices qu'il a à faire. C'est deux particularités également. C'est une personne qui fait de l'escrime à très très haut niveau
C'est Bruce Dickinson?
et surtout qui est instructeur depuis qui est
Mais oui,
pilote
c'est
de
Bruce
ligne.
Dickinson. Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà. Je lis la
Bruce
biographie.
Dickinson.
Bruce Dickinson, qui est
Ah
donc Théo, le
oui.
chanteur d'Iron Maiden, le chanteur
Ouais.
historique d'Iron
Ok.
Maiden. Je me suis mis à lire ça, mais alors,
Mais
c'est
lui, il
un
a
gros
une
bouquin.
vie incroyable.
La vie est folle. C'est un type qui était un féru d'histoire, etc.
C'est chez qui? C'est qui l'éditeur?
C'est Talent Édition.
Ah oui, c'est vachement
C'est
bien, il faut.
sans concession, c'est écrit tout petit, mais il y a quand même presque 500 pages. Et alors, tu as des anecdotes de tournée. Et attendez, les gars, je suis obligé de vous lire
À
juste ça.
fond. Ah vas-y, je me régale de ça.
Alors, il est dans un concert, il est complètement. Il dit dans un état. Après le concert, je me suis retrouvé dans un état d'ébriété très avancé, dans un festival. J'ai dans un état d'ébriété très avancé et j'ai fait preuve d'un comportement des plus effarants. J'ai vidé d'une traite une bouteille de champagne avant d'escalader les gradins pour écouter la suite du concert derrière la table de mixage. Un journaliste très sérieux m'a alors demandé ce que je pensais du son. Je lui ai répondu tranquillement en pissant sur la table de mixage. J'avais été prié de partir. Sans chaperon, mais le zizi toujours en liberté, j'avais interrompu une séance de photos de Quiet Riot en insérant ma bite dans l'oreille du chanteur du groupe qui comptait donc sur la photo un nouveau membre. On m'a escorté hors du bâtiment et mis dans une voiture. Le chauffeur avait reçu pour instruction de me mettre au lit. Malheureusement pour lui, il m'avait mis sur le siège avant. À chaque feu rouge, je mettais la marche arrière. Et après avoir tenté d'ouvrir la porte alors que nous roulions relativement vite, il m'a fait passer de l'avant à l'arrière. Qui a dit que nous avions oublié, en étant adultes, à nous comporter comme des bébés? À
Ah, la
700
vache.
pages où il raconte des trucs comme ça, il y en a, mais surtout il raconte tout le processus d'écriture de chaque album et toute la solitude du musicien en tournée, la difficulté à se
Ouais.
remettre en place, la difficulté de la vie dans un bus, la difficulté de la vie de groupe avec les divers clashs qu'il a pu avoir. Et c'est un personnage qui, lui, tu vois, lui, sa passion, toi, c'est le basket, lui, c'était l'escrime. Entre chaque concert, il trouvait une salle d'escrime et il allait passer sa journée à tirer, justement. Et c'est ce qui lui permettait d'être apaisé. Bon, maintenant, il mène une autre bagarre moins drôle contre le cancer. Mais
Ouais.
quel personnage, quelle vie folle. Et c'est surtout un pan de l'histoire du rock. Et là où j'ai pensé à toi, Wax, et j'ai voulu présenter ça, il raconte sa rencontre avec Johnny Cash, qui donc,
Ah.
il le voit et l'autre lui tend une photo. Et lui dit, tu peux la signer pour ma fille qui est une fan. Et l'autre le regarde, le géant, en disant, il dit juste un truc, il dit, son champ met tes bottes. Il dit juste ça comme ça, il sait pas quoi lui dire d'autre et il est dégoûté parce que c'est le seul truc qu'il a pu dire à Johnny Cash, quoi.
Ça, c'est incroyable. Mais l'anecdote est folle. Hein. Moi qui ai tourné pendant 6 ans avec les Zwinkels, j'en ai des anecdotes comme ça de leur part. Mais celle-là, elle est très très bonne.
Ah ouais,
Oui,
ça
j'imagine que tu dois en avoir des belles avec les
va.
Zwinkels.
Xfingot, t'as dû passer quelques moments assez croustillants.
Ouais. D'ailleurs, RIP à Nikus qui nous a
Bien
quittés
sûr,
il
bien
y a
sûr,
quelques semaines.
bien sûr. Théo, ton coup de cœur de
Carrément.
la semaine.
Bah écoute, moi, c'est une BD. C'est une BD aussi biographique. Un livre qui s'appelle Jesse Owens, des mille et des mille, ou des miles et des miles, je suis pas sûr. C'est de Gradimir Smoudja, c'est sorti aux éditions Futuropolis. Pierre, tu nous avais déjà présenté cette magnifique biographie de Jack Johnson il y a quelques semaines. C'est la même maison
Magnifique.
d'édition, en bande dessinée, donc sur l'histoire de Jesse Owens, mais vraiment en partant de son enfance dans la pauvreté des États-Unis. Donc voilà, les dessins sont vraiment magnifiques. C'est plein de tendresse, je trouve, les planches et voilà les dessins. Donc voilà, c'est à découvrir. C'est aux éditions Futuropolis. Je vous mets le lien comme d'habitude. Ça, c'est mon premier coup de cœur de la semaine. Et le deuxième, c'est un cadeau qui m'a été fait. C'est mon pote Manu qui m'a offert ce superbe t-shirt Public Enemy. Voilà, un de nos groupes dont on était fan gamin. Et donc je suis resté fan. Donc ça, c'est un petit big up à mon gars Manu.
Et on parlait d'Isia Thomas tout à l'heure, mais l'une des autres personnes hyper tendres, hyper gentilles, et avec laquelle j'ai eu la chance de faire de la musique et qui
C'est
est
Chuck D.
incroyable, c'est Chuck D.
Ouais, bien sûr.
Il est incroyable, ce mec. J'imagine que peut-être tu l'as déjà reçu dans une de tes émissions, Pierre, ou...
Chuck D, non. La difficulté, c'est sur les émissions radio, quand on est en France, d'avoir les gros quinri comme ça. Tu les bookes, tu les as, et ils te plantent à la dernière
Ouais,
seconde.
ouais.
Et moi, j'ai un gros problème, c'est que Hangtime, à laquelle participe Théo régulièrement, j'ai pour principe que toutes mes interviews sont en direct. Je
Ah,
déteste
d'accord.
enregistrer des trucs, donc moi, voilà, le direct, pour moi, c'est la plus belle des choses, comme le live. Et la radio, pour ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Et malheureusement, j'ai jamais pu faire Chuck D. C'est difficile d'avoir des grands noms et de grandes légendes.
Vous entendriez si bien.
J'imagine.
Ah ouais, mais ça serait fou les discussions que vous auriez.
J'avais eu la chance de le faire 2 fois en interview quand je bossais dans la presse musicale. Et moi c'était mon icône de gamin. En fait, pour moi,
J'imagine.
c'était le super-héros. Et d'une gentillesse et d'une simplicité, t'as l'impression que. Enfin, c'est un des artistes que j'ai trouvé qui était le plus simple. Vraiment, t'avais l'impression de parler avec un mec normal, entre
C'est
guillemets.
ça.
C'est bluffant.
Ouais, c'est ouf. Et puis surtout, il a une mémoire de dingue. Et puis, je sais pas
Ça
si vous le
paraît.
suivez sur Instagram, sur Twitter, mais il
Ouais.
fait des dessins. de plein de trucs qui le touchent. Il est fan de baseball des années 60. Enfin, je sais pas, il me touche à fond, ce mec. Je le trouve brillant. Et en plus de ça, je trouve qu'il a une émotivité qui est folle. J'invite tout le monde à aller le suivre sur Twitter.
Ouais,
Enfin, sur
Mister
X.
Chuck
X,
ouais, sur X,
c'est
Mister
ça, ouais.
Chuck, si je me trompe pas. Wax, est-ce que tu as une petite relique à nous présenter cette semaine ou est-ce que tu as
Bien
un
sûr,
truc en
j'ai une
tête?
petite relique, mais avant ça, je voulais juste dire, on n'a même pas parlé du fait que Ghostface Killah a sorti un album qui est plutôt très cool, non? Vous n'avez pas trouvé,
Carrément,
vous?
carrément. Notamment, ouais, bah, en
Pour
fait,
connaître.
Ghostface, je suis quasiment jamais surpris parce que je trouve que c'est le peut-être le meilleur des membres du Wu sur la discographie, quoi.
On est ensemble.
Oui, je suis
Voilà.
d'accord.
On est d'accord. Donc, moi, j'ai été bluffé effectivement par le niveau. Notamment, il y a un morceau avec Method Man où ils font un
Ouais.
passe-passe tous les deux qui m'a mis sur le cul parce que je trouve que Method, c'était un petit peu mon Vince Carter dans le sens où je l'avais trouvé
Ouais,
hyper talentueux. Puis après, j'étais un petit peu déçu. Et là, je l'ai trouvé très en verve, carrément.
carrément. Et d'ailleurs, pour les fans qui aiment Method Man, je sais pas si toi tu as entendu ce morceau, ils avaient fait un morceau avec Snoop, un peu old school, en mode allez, on va faire un morceau des années 90 avec que des old school. Ils avaient fait un morceau qui s'appelle Mon Cushmore. Je sais pas
Ouais,
si vous l'avez entendu, où
ça
il y
j'ai pas
avait.
entendu, non.
Oh là là, foncez dès que c'est le podcast est fini, foncez d'écouter. Il y a Be Real dessus, il y a Redman, Snoop et Method. Et Method Man sur ce titre, il est, mais ça faisait très longtemps. C'est du vintage Method, tu vois.
Ok.
Et franchement, le morceau Mon Cauchemar, bon, ça parle de weed évidemment, mais il est extraordinaire. Voilà.
Ah bah
Alors,
je vais aller
ma
écouter ça
relique.
de ce pas. Ouais.
Parce qu'il y a un joueur dont on n'a pas parlé quand même depuis le début de cette émission, qui est quand même mon joueur préféré de tous les temps, même si je suis fan d'Isiah Thomas pour plein de raisons, mon joueur, mon icône absolue, c'est Dennis Rodman. D'ailleurs, j'ai sur ma guitare un portrait de Dennis Rodman, et peu importe où je vais, j'ai toujours Dennis Rodman. Donc, même quand je jouais avec Sting, il y avait Dennis Rodman sur mon truc. Enfin, vraiment, partout je le trimballe. Et quand j'étais plus jeune, j'avais un poster de Dennis Rodman aux Lakers.
Wow,
Euh,
le
en...
73.
voilà, exactement. Et parce que 73, en plus, c'est mon chiffre. Enfin bon, ça, c'est. On va pas rentrer dans tous les détails. Mais j'avais un poster que j'avais mis sur le plafond de. Comme ça, quand je dormais, je voyais Dennis qui prenait un rebond comme ça avec son 73 des Lakers. Et en fait, sous ce poster, très bête, ne faites pas ça chez vous. Toutes les sales notes que j'avais, je les mettais dans le poster. Et un jour, mon père est rentré dans ma chambre d'un coup pour m'engueuler pour je ne sais pas quoi. Le poster s'est déchiré et tous mes zéros ont volé comme ça dans ma chambre. Et enfin bon, bah ça c'était juste pour l'anecdote. Ne faites pas ça. Et ouais, en fait,
Normalement, on
j'ai.
aura plus. Normalement, on n'a plus besoin de le faire. Enfin,
Non, non, non,
de...
ouais, c'est vrai. Mais je disais ça pour les
Magnifique.
plus jeunes. Mais
Ouais.
ouais, c'est le maillot Mitchell & Ness
Superbe.
73
Il est
brodé.
plutôt rare, celui-là.
Ouais, il est assez rare. Et j'avoue que. Alors, c'est pas une grande période pour Rodman. Mais moi, quand il a signé aux Lakers, je peux pas t'expliquer pourquoi j'y croyais. Je me disais, c'est la pièce qui leur manquait.
Pas faux.
Shaq et Rodman. Ça va être incroyable en front de courte. Et je suis sûr que ça va matcher avec le reste de l'équipe. Parce qu'en plus, le corps de l'équipe, c'est plus ou moins celui qui a gagné en 2000. À part que c'était, je crois, c'était Harris qui était le coach. Il n'y avait pas encore Jackson qui était là.
Ouais.
Mais à quelques mois près, si c'était Jackson qui avait été là, je suis sûr qu'il aurait gardé Dennis parce que lui savait très bien le gérer. Et je suis persuadé que Dennis aurait pu avoir 3 titres de plus à son palmarès. Lui qu'on avait déjà 5, mais voilà. Et je sais pas, les highlights de lui aux Lakers, je me les fais, tous les ans, je me les fais. Ça fait un peu mon doudou, quoi.
Il est magnifique le jersey, franchement, en plus c'est le
Ouais,
très très beau maillot des Lakers, celui-là il est fantastique quoi. Ouais.
c'est mon préféré. C'est celui qu'ils ont eu entre 72 et 99, il me semble. Et ouais, en plus, ouais, c'est. Tu sais, il y a encore les petits trous et tout. En fait, moi, je suis très dans les objets, tu vois. J'adore les objets. Et vraiment, les maillots actuels, je les déteste. Ils sont complètement opaques, ils sont un peu plastiques et ils sont pas brodés surtout. Là, celui-là, tout est brodé, tu vois, chaque lettre est brodée. Voilà, je trouve que j'aime pas faire le vieux con, mais je trouve qu'on fait plus de maillots aussi beaux qu'aujourd'hui qu'avant. Et puis moi, s'il n'y a pas le NBA là sur la gauche, ça me voilà. Qui est écrit Vistaprint ou Motorola, moi ça m'intéresse pas, quoi.
Je
Après,
comprends.
les maillots Mitchell Hennes, tu les portes l'été, il fait un peu chaud, tu t'adosses un petit peu, t'as Rodman dans le dos pendant une semaine.
Ah, ça c'est clair, ça je suis d'accord. C'est des maillots bien lourds, ouais.
Pierre, t'as une relique?
Vous m'avez niqué ma relique, quoi, bande d'abrutis.
Ah,
Évidemment,
pas vraiment. Au
on
contraire,
parlait, je voulais quand même te parler de cette histoire au Hellfest où tu fais la cover de Walk This Way avec tout le line-up d'Hellfest et avec Chuck D donc, qui apparaît avec toi. Donc, je voulais vous montrer ce joli coffret de Public Enemy. Tu dois avoir certainement, Théo. C'est le,
non, ça j'ai pas.
le Power to the People and the Beat, c'est les singles, tous les singles de Public Enemy.
Magnifique, hein.
1, 2, 3, 4, 5 vinyles. Voilà, ça part de Rebel Without a Pause, ça finit par I Got Game à la fin, voilà, avec tous les singles. Vous voyez qui sont avec des jolies pochettes. Voilà, c'était sorti il y a quelques années. Voilà, il y avait rien de foufou dedans, mais C'était un joli truc. Ça, c'était la relique. Et puis, force de parler de Bruce Dickinson, tout ça, j'ai sorti un vieux truc que j'avais. Est-ce que tu as ça, toi? C'est un coffret de CD.
Je vois très bien c'est lequel. Je ne l'ai pas.
Coffret de CD où tu as 10 ans de. Alors, on parlait des singles. Voilà, c'est les 10 ans de singles.
D'Iron Maiden, non?
D'Iron Maiden, pareil. En CD avec, tu vois, la face A, la face B à chaque fois. De chaque single, donc c'était tu vois, c'était avec les covers et tout. Donc il y avait 10 CD sur 10 ans de ce truc, et alors ça me faisait marrer parce que là ils avaient mis le ballon de foot de leur Iron Maiden football.
Ah bah ouais.
Sur les 10 premières années, voilà, j'ai retrouvé ça en faisant du rangement l'autre jour, et c'est assez
c'est marrant. Des fans de West Ham, hein, c'est ça?
C'est des fans de West Ham, mais ils ont leur propre équipe, et j'ai appris donc là-dedans que Steve Harris, lui, à un moment, ils étaient tellement fat et c'était tellement gros les tournées qu'il amenait avec lui sa propre équipe de foot, Steve Harris, parce que comme ça, il était sûr d'avoir 11 gars pour jouer. Et du coup, quand ils allaient sur place, il avait son équipe et il trouvait d'autres gars pour jouer, mais il partait avec ses potes pour qu'ils faisaient l'équipe. Tu vois.
C'est incroyable. Et petite anecdote de Steve Harris que j'avais lu dans une interview, il avait dit « Je suis le seul mec sur Terre qui a vendu 100 millions de disques et qui peut aller au pub à côté de chez moi et personne ne me reconnaît. » Et c'est vrai, tu vois.
Celui-là, lui, à mon avis, il vient se balader n'importe où, à part en Angleterre, personne ne le reconnaît non plus. Hein.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
C'est fou, ça.
Et c'est beau. Allez, moi, pour finir, je voulais te rendre hommage d'une certaine manière. Wax, j'ai ressorti cette publication, c'est un rap mag, un magazine de rap pour lequel je travaillais. Et on avait fait un spécial Détroit et j'avais eu la grande chance avec mon camarade Vincent Baird de partir à Détroit pour aller faire des interviews d'artistes là-bas. C'est la première et seule fois où on était parti une dizaine de jours quasiment, et j'avais été bluffé par l'accueil que nous avaient réservé les gens de Détroit, qu'on revenait pas, que des gens viennent de France pour venir les voir, pour parler de musique. Et c'est un super souvenir. On avait fait vraiment plein d'artistes un peu underground, que ce soit Dwele, Elzaï, Fat Cap, Black Milk, toute cette génération qui sortit dans la foulée de Slum Village et de JD. Et ouais, vraiment, c'est sans doute le meilleur accueil que, enfin, aux États-Unis, j'ai pu y aller plusieurs fois. Les gens étaient vraiment charmant, une ville un peu bizarre, un peu flippante, hein. C'était en 2008, donc ça remonte. Il y a deux fois où à 18h en plein dans le downtown, il y a des gens qui nous ont dit ouais, faut pas rester là, les Français repartez, quoi. Donc c'est un peu bizarre, mais j'ai beaucoup aimé ce voyage. Et puis c'est vrai qu'il y a une, enfin, toi tu connais mieux la ville que moi encore, Wax, mais une ambiance vraiment particulière dans cette ville de Détroit, quoi.
Ouais, franchement, c'est vrai que c'est un peu Zombieland. Maintenant, ça va beaucoup mieux depuis quelques années. Ils ont refait le centre-ville. Mais bon, effectivement, ils ne sont toujours pas remis de la crise, quoi.
Ouais. Heureusement, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une petite embellie économique depuis, mais c'est vrai que ça reste compliqué, quoi.
Pas dans le basket, mais, ouais. Mais ouais.
Écoute, bah, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler encore. Wax, il faudra qu'on fasse une deuxième partie de ce Hoop Culture. C'était vraiment un kiff de t'avoir avec nous. Merci encore pour tout ça. Je te souhaite plein de bonnes choses pour Étincelle. Y a aussi, on peut te retrouver aussi dans Foudre le dimanche sur RTL2. Il y a Fanzine toujours sur YouTube. Nous, de toute façon, on reste en contact et on te dit à très vite. Profite bien des playoffs et à très vite.
Merci beaucoup, gros bisous à vous deux et gros bisous aussi à Shai et à Chey. Shai Mamou et Antoine Pimel qui me régalent dans le CQFR. Il faut absolument que les gens continuent à écouter le CQFR parce que c'est extraordinaire, ça, ce qu'ils font, enfin, ce que vous faites tous.
Merci beaucoup, Wax, et on te dit à très vite. Ciao.
Merci, gros bisous.